Monsieur, dame, je m'excuse, mais j'ai un peu de compassion pour vous, parce que pour les prochaines 30 minutes, vous êtes exposé à mon accent barbarique, qui est vraiment une offense à votre belle langue. Alors, dans la discussion, je me permets de parler en anglais parce que mon français est trop pauvre pour répondre adéquatement à la complexité de votre question. Alors, je parlerai sur le thème « L'autoconstitutionnalisation des entreprises transnationales sur les rapports entre les codes de conduite privés et publics des entreprises ». Au cours des dernières années, les entreprises transnationales ont été impliquées dans plusieurs scandales qui ont choqué le monde entier. Les catastrophes écologiques comme les marées noires d'Exxon-Valdez en Alaska, Shell au Nigeria, les conditions de travail inhumaines, le travail des enfants, la répression des délégués syndicaux, la politique désastreuse des prix lors de la crise de SIDA en Afrique du Sud, la complicité des entreprises transnationales dans la corruption et les violations des droits de l'homme ont profondément sensibilisé le public sur les effets négatifs de la transnationalisation des entreprises commerciales. Parallèlement, ces ramifications ont déclenché une pléthore d'initiatives politiques destinées à réglementer les entreprises transnationales par le biais de normes juridiques contraignantes. À la place des réglementations étatiques contraignantes envisagées, une espèce différente des régimes transnationaux s'est répandue à l'échelle globale, les codes de conduite volontaires des entreprises transnationales. Aujourd'hui, ces codes existent sous des formes variées, même si deux variantes de base prédominent. D'une part, les États imposent, par le biais d'accords soumis au droit international ou des normes produites par les organisations internationales, des codes de conduite pour les entreprises transnationales, des codes publics courts et imprécis, qui prescrivent des lignes directrices générales pour les entreprises transnationales relatives aux conditions de travail, à la qualité des produits, aux politiques environnementales, à la protection des consommateurs et aux droits de l'homme. À ce titre, le projet de code de conduite de l'Organisation des Nations Unies sur les entreprises multinationales, les principes directeurs de l'Organisation de coopération de développement économique et la déclaration des principes tripartites de l'Organisation internationale du travail sur les entreprises multinationales revêtent une importance particulière. D'autre part, la critique massive de l'opinion publique disséminée à l'échelle globale par les médias et l'agressivité des mouvements de protestation et de la société civile, des organisations non gouvernementales, poussent de nombreuses entreprises transnationales à développer volontairement des codes d'entreprise. Elle s'oblige publiquement à respecter des standards dans les domaines mentionnés précédemment et promettent leur exécution, à nouveau, par des codes privés courts et imprécis. Dans de nombreux cas, les codes d'entreprise résistent à simples recommandations sans aucun effet. Mais plusieurs études empiriques méritent toutefois une attention particulière. Ces études montrent que dans certains cas, les codes ont amené un changement réel. Ils ont en effet permis d'améliorer les conditions de travail, la protection de l'environnement et l'adoption des standards relatifs aux droits de l'homme. Quelle est la particularité de l'imbrication des codes d'entreprises privées et publiques? Notre thèse est que cette interaction matérialise des tendances non seulement à la juridicisation, mais aussi à la constitutionnalisation. Ensemble, ces deux types de codes d'entreprise représentent les prémices des constitutions spécifiques d'entreprises transnationales conçues comme des constitutions au sens strict. Cet argument développé ailleurs se fonde sur un concept de constitutionnalisation qui n'est pas limité à l'État-nation, mais implique que des ordres sociétaux non étatiques, développe aussi des constitutions autonomes dans des circonstances historiques particulières. De plus, dans le processus de globalisation, le centre de la constitutionnalisation migre du système politique vers différents secteurs sociétaux qui produisent les normes constitutionnelles à une certaine distance des constitutions politiques des États-nations. Seront ici développés les arguments suivants lesquels les codes d'entreprise présentent des fonctions, des structures et des institutions. Fonctions, structures et des institutions propres à des véritables constitutions. Premièrement, dans la mesure où les codes d'entreprise publics et privés juridicisent les principes fondamentaux de notre social et établissent en même temps des règles de autolimitation, ils remplissent des fonctions constitutionnelles centrales. Deuxièmement, les deux types de codes développent des véritables structures constitutionnelles avec leurs caractéristiques de double réflexivité et de métacodage binaire. Et troisièmement, en tant qu'institution constitutionnelle, les deux codes ne forment pas une hiérarchie des constitutions publiques et privées, mais une relation ultracyclique de réseaux qualitativement différents des normes constitutionnelles. Premier argument, des fonctions constitutionnelles, les règles constitutives et limitatives. Le consensus de Washington, qui se maintient depuis 30 ans, a progressé politiquement avec ce premier élan de constitutionnalisation des marchés mondiaux. Ces principes visaient à fournir aux entreprises opérant partout dans le monde des marges de manœuvre illimitées, ce qui impliquait de mettre un terme aux participations publiques à leur capital, de combattre le protectionnisme commercial et de libérer les entreprises commerciales des réglementations politiques. La gouvernance des entreprises multinationales, dont les principes impliquent un degré important d'autonomie pour les entreprises, un droit de société tourné vers les marchés de capitaux et l'établissement de la shareholder value fait partie intégrante de ces tendances à la constitutionnalisation. À long terme, cependant, il n'est pas viable pour le constitutionnalisme d'entreprise de se restreindre à sa fonction constitutive avec une telle perspective monocentrée sur le néolibéralisme. Ce n'est qu'une question de temps avant que les énergies libérées produisent non seulement des effets positifs, mais aussi des effets négatifs, si bien que les conflits sociaux qui en résulteront pousseront à opérer des corrections drastiques. La disparition politiquement imposée des régimes nationaux de production provoque des dynamiques destructives dans lesquelles la maximisation fonctionnelle d'un secteur entre en collision avec d'autres dynamiques sociétales. Aujourd'hui, il est impératif de réajuster la politique constitutionnelle. Dans un second courant de constitutionnalisation, la fonction limitative, plutôt que constitutive, des normes constitutionnelles est recherchée. Les codes d'entreprise prennent part à ce second courant lorsqu'ils restreignent les activités des entreprises au nom de la responsabilité publique. Ils tentent à la fois de surmonter la primauté de leur shareholder value en favorisant les autres parties prenantes et de mettre en place une autolimitation du principe de profit dans les domaines du travail, de la qualité des produits, de l'environnement et des droits de l'homme. Deuxième argument, des structures constitutionnelles, la double réflexivité et le métacodage primaire, binaire. Les codes n'établiraient pas une constitution d'entreprise s'ils introduisaient uniquement des règles primaires gouvernant les activités des entreprises. Le seul critique est atteint lorsque les codes présentent des règles secondaires concernant l'identification, l'interprétation, l'emmènement et les compétences relatives à la promulgation et à la délégation des règles primaires. C'est seulement le double caractère propre au code d'entreprise, désigné ici par la double réflexivité des normes juridiques et des structures sociales, qui transforme les normes secondaires en normes constitutionnelles. Si le droit joue un rôle de soutien dans l'autoconstitution d'un ordre social, au-delà de la fonction de contrôle des conduites, de résolution des litiges, de réglementation et d'encadrement, il s'agit de droit constitutionnel. Une constitution d'entreprise au sens strict émerge seulement si un couplage structurel bien particulier voit le jour entre l'organisation de l'entreprise et le droit. Coupler les règles primaires à des décisions organisationnelles n'est pas suffisant. Seul le couplage des deux processus réflexifs est déterminant. Les constitutions transnationales d'entreprise associent les processus réflexifs de l'organisation économique, ce que fait notre collègue, au processus juridique réflexif, que fait cette collègue-là. En d'autres termes, elles associent les principes fondamentaux de l'organisation aux règles juridiques secondaires. Une constitutionnalisation autonome, non étatique, apolitique, et donc véritablement sociétal, s'opère par les codes d'entreprise transnationales puisqu'ils juridicisent des processus sociaux réflexifs concernant le rapport de l'entreprise à ses environnements et les associent à leur processus juridique partiellement réflexif. Les codes présentent en effet des éléments caractéristiques d'une constitution, des réglementations concernant l'établissement et la pratique de la prise de décision organisationnelle, ce sont des règles procédurales de l'entreprise, et la délimitation des frontières du système, les droits fondamentaux des individus et des institutions vis-à-vis de l'entreprise. L'objectif de la constitutionnalisation d'une société est atteint lorsque un métacodage binaire spécifique se développe et devient le point de référence des processus intra-entreprises. Le métacodage est binaire parce qu'il oscille entre deux valeurs, code compatible et code incompatible, par rapport à la constitution d'entreprise. Un métacodage existe dans ces cas puisque le code constitutionnel soumet la codification binaire existante des normes juridiques intra-entreprises à un examen additionnel, celui de savoir si elles se conforment aux conditions du droit constitutionnel d'entreprise. La hiérarchie entre le droit ordinaire et le droit constitutionnel apparaît, ce qui est propre à toutes les constitutions politiques, étatiques, les constitutions sociétales ou encore les constitutions des organisations formelles. Le code juridique légal et illégal est subordonné au code constitutionnel, constitutionnel, inconstitutionnel. Le métacodage constitutionnel comporte toutefois un aspect particulier. Il est hiérarchiquement supérieur non seulement au code juridique, mais aussi au code économique. Il remet ainsi en question toutes les opérations des entreprises soumises au code binaire économique, qu'elles respectent ou non les principes de la responsabilité publique de l'entreprise. Le métacodage constitutionnel est donc hybride. Il sert d'unité fictionnelle pour deux contrôles constitutionnels distincts au sein de l'entreprise. D'une part, il est placé hiérarchiquement au-dessus du code juridique, et d'autre part, il se trouve au-dessus du code binaire économique. Il revêt ainsi une signification différente selon qu'il contrôle le code économique ou le code juridique. Dans un contexte économique, il reflète la responsabilité sociale de l'entreprise et cherche à identifier des stratégies pour des activités économiques respectueuses de l'environnement. Dans le contexte du droit des sociétés, il introduit une distinction entre le droit ordinaire et le droit constitutionnel en contrôlant la conformité des actes juridiques simple aux valeurs et principes établis par la constitution d'entreprise. Troisième argument, des institutions constitutionnelles, les codes privés et codes publics dans un ultracycle. Même si de cette manière des fonctions et des structures constitutionnelles peuvent être identifiées, il demeure difficile de cerner la particularité institutionnelle des codes d'entreprise, codes privés et codes publics, avec davantage de précision théorique. en comparaison avec la hiérarchie traditionnelle entre des normes du droit étatique, au droit public, et du droit privé, on peut détecter des changements significatifs dans les codes transnationaux qui ne correspondent pas aux catégories habituelles. Dans les interactions entre les codes d'entreprise, on observe une inversion complète de la hiérarchie entre le droit étatique et l'ordonnancement privé. Un renversement total a lieu, spécialement concernant le caractère de « soft law » ou de « hard law » des codes publics et privés. Désormais, ce sont les normes étatiques qui revêtent la qualité de « soft law », tandis que les simples réglementations privées de l'entreprise transnationale apparaissent comme une nouvelle forme de « hard law ». Les normes de droit international public, telles que celles qui ont été énoncées par les Nations unies dans le code de conduite de l'entreprise transnationale, ne sont pas comparables aux normes contraignantes relatives aux constitutions d'entreprise énoncées par les parlements et les cours constitutionnels des États-nations. La version finale contient des simples règles de « soft law », des recommandations non contraignantes qui ne peuvent être juridiquement sanctionnées. Par ailleurs, les codes internes privés à l'entreprise ne sont pas des simples réglementations privées non étatiques, mais constituent en réalité la loi régissant leur champ d'application, revêtue d'une grande force contraignante et de sanctions effectives. Les codes internes aux entreprises sont directement contraignants pour les personnes concernées et elles sont assorties de sanctions effectives qui sont appliquées par les organes de conformité récemment créés. Le droit d'organisation interne de l'entreprise se détache ainsi du droit étatique. Il constitue un système clos de validité juridique non étatique qui est lui-même structuré hiérarchiquement. L'inversion de la hiérarchie ne va pas assez loin, bien qu'il y ait une évidente primauté normative et factuelle des codes privés sur les codes publics. Cette primauté n'est pas de nature hiérarchique, il s'agit plutôt d'une exclusion du public par le privé. Les normes étatiques ne sont pas subordonnées aux normes privées, elles sont plutôt chassées de l'intérieur du cadre normatif vers l'environnement de l'entreprise. De ce fait, l'idée d'un espace juridique unifié des règles étatiques et privées devient obsolète. À la place, deux espaces juridiques indépendants se développent, un droit interne aux entreprises autonomes d'origine privée et contraignante et un ensemble de recommandations normatives, mais non obligatoires, de comportements organisés par l'État. Bien qu'il semble évident que ces deux ensembles normatifs constituent deux espaces juridiques mutuellement clos, il n'est pas facile de déterminer ce qui constitue leur clôture. En tout cas, il ne s'agit pas de clôtures opératives des systèmes sociaux au sens strict. Leur clôture ne repose pas sur une différence entre leurs opérations, ce sont toujours les opérations légales. Dans la mesure où les mêmes opérations, actes juridiques, sont traitées par les deux codes, il s'agit plutôt d'une clôture structurelle qui provient de deux différences. La première différence est la stricte limitation de leur espace de validité. Les codes privés prétendent être valables pour les membres des entreprises transnationales, tandis que les codes publics prétendent être valables pour les États parties. La seconde différence est d'ordre qualitatif. L'un est une norme contraignante, tandis que l'autre est une simple recommandation normative. En termes de la théorie systémique, la particularité du système juridique global ne vient pas de l'émergence d'un nouveau type d'opération juridique qui aboutirait à une clôture opérative entre les sous-systèmes nouvellement créés. Le symbole de validité est plutôt transféré de sorte qu'apparaissent des frontières entre les différents ordres juridiques. Cela aboutit à une clôture structurelle définissant les frontières entre différents espaces de validité qui sont d'ordre thématique, fonctionnel ou juridictionnel, non plus territorial ou national. Dans cette optique, les codes privés et publics constituent deux espaces juridiques mutuellement clos entre lesquels aucun transfert de validité n'a lieu, mais qui s'influencent mutuellement de différentes manières. Ça, c'est très important. Comment les frontières entre les codes privés et publics sont-elles définies? Il serait inexact de les considérer comme des frontières entre organisations formelles, les entreprises transnationales d'un côté et les organisations internationales de l'autre. En réalité, dans chaque espace juridique, des réseaux normatifs extensifs se sont développés entre différentes organisations qui facilitent la compréhension de l'entière configuration comme une relation entre deux réseaux normatifs différents et mutuellement clos. D'une part, les codes privés ont d'ores et déjà dépassé les limites d'entreprises individuelles. Ils ont étendu leur validité à des conglomérats d'entreprises qui transcendent les frontières nationales et englobent parfois des centaines de sociétés. Sous la pression du public et d'organisations de la société civile, leur visée s'est même étendue au-delà des groupes de sociétés. Par des régulations contractuelles, les groupes puissants sont capables de lier leurs fournisseurs et leur chaîne de distribution à leur code d'entreprise et utilisent la technique contractuelle pour établir un contrôle effectif et un système de sanctions. De l'autre côté, des interactions entre les codes d'origine étatique peuvent être observées, des connexions diverses entre les codes d'entreprise de l'OIT, de l'OECD, de l'ONU et de l'Union européenne sont apparues. Dès lors, on tente souvent de concevoir la relation elle-même comme un large réseau unique, voire comme un réseau des réseaux, comme un méta-réseau entre l'État et les acteurs privés. La relation peut être comprise plus précisément à travers la différence entre hypercycle et ultracycle. Un hypercycle apparaît lorsque des opérations communicatives à l'intérieur d'un réseau clos forment des cycles qui sont reliés de manière circulaire. Par opposition, un ultracycle apparaît lorsqu'un cycle de perturbations réciproques, comme dans les relations d'amour, par exemple. Alors, perturbations réciproques se développent entre réseaux clos. Au sein des codes d'entreprise privées, les relations sont de nature hypercyclique. Entre les opérations juridiques cycliques qui connectent les différentes organisations formelles, par exemple les entreprises transnationales, leurs fournisseurs, leurs distributeurs, des connexions directes et inter-organisations se développent. Les symboles de validité de l'ordonnancement privé sont directement transférés par le biais des contrats et des lois inter-organisationnelles. À l'intérieur de ce réseau d'opérations juridiques privées, les noms privés ont un effet contraignant direct sur les participants et en cas de non-respect, des sanctions peuvent être prononcées. Ainsi, un champ fermé des réglementations privées apparaît au travers du lien hypercyclique des entreprises transnationales et des autres entreprises commerciales. D'une manière complètement différente, ces codes privés, reliés les uns aux autres, sont connectés aux codes publics. Pour cette forme de connexion, le modèle d'ultracycle et non celui de l'hypercycle est approprié, bien que les codes publics définissent certaines obligations politiquement souhaitables et établissent la frontière entre les activités autorisées et les activités interdites. Ils constituent uniquement des recommandations informelles et des simples appels à une certaine conduite. Il s'agit des lois valides, mais sous une forme paradoxale, ce sont des lois en vigueur, mais dépourvues de sanctions juridiques. Cela signifie que les codes privés qui se présentent comme des cercles de validité fermés sur eux-mêmes, autoréférentiels, ne sont pas complètement indépendants des codes publics exigeant de leur validité, mais aussi que les codes publics ne peuvent être normativement connectés aux standardisations privées. De l'extérieur, ils peuvent enjoindre, suggérer, motiver, exhorter ou bien énoncer des obligations, mais ils ne peuvent commander ou suspendre la validité des codes privés. Il s'agit de simples irritations perturbations extérieures pour les cycles internes de validité des codes privés. Lorsque, dans certaines circonstances, se développent des relations entre les codes, un ultracycle apparaît, un cycle de perturbations entre les codes privés et publics. On ne devrait pas rejeter les ultracycles comme des simples mises en scène politiques ou de la poudre aux yeux, complètement incapable d'influer sur les codes internes de l'entreprise. Ce qui compte sont les pressions d'apprentissage, c'est-à-dire les changements internes induits par les contraintes externes. Les deux éléments doivent être présents pour permettre aux codes privés et publics d'agir en combinaison. Un changement interne des structures cognitives et normatives est une pression externe en ce sens. Dans le cas contraire, le lien ultracyclique n'apparaît pas et les codes publics demeurent des impulsions externes dépourvues d'effet. Ici, la clôture submentionnée devient apparente, permettant une ouverture mutuelle. L'ouvert s'appuie sur le fermé. Un transfert de validité entre les deux est hors de question, à la place des pressions d'apprentissage qui constituent d'autres mécanismes d'ouverture mutuelle se développe. À ce niveau, l'un des changements les plus significatifs dans la structure juridique qui a lieu dans la transition vers la société mondiale devient visible. Les deux ordres de code ne communiquent pas par le médium du droit. Leur validité des ententes normatives n'est pas transférée d'un code à un autre par des opérations juridiques, à la place des processus d'apprentissage des codes juridiques internes de l'entreprise sont déclenchés et souvent même imposés par des moyens non juridiques. Expertise, pouvoir politique ou social, persuasion normative, incitation et sanctions financières. En quoi consiste le premier élément des pressions d'apprentissage, à savoir l'apprentissage cognitif? Les codes publics fournissent uniquement des modèles, des standards de comportement, des principes de bonnes pratiques et des recommandations pour les codes privés. L'ultracycle ne met pas fin à leur autonomie, il utilise plutôt leur autonomie pour produire des nouvelles normes, qui sont des normes de hard law dans les codes internes de l'entreprise et de soft law dans les codes étatiques. En quoi consiste le second élément, à savoir la pression? Dans le processus d'apprentissage, les sanctions juridiques formelles ne jouent pas un rôle très décisif. Les mécanismes extra-juridiques sont davantage responsables du fait que les entreprises envisagent les codes publics comme des incitations à apprendre et développent leurs propres codes pour leur situation particulière. Ces mécanismes extra-juridiques ne sont en aucun cas inférieurs aux sanctions juridiques. Tout d'abord, ce sont les processus de pouvoir interorganisationnel, pression unilatérale et contrepartie politique qui forcent les entreprises commerciales à développer des codes. Il faut insister sur le fait que cette pression extérieure est une condition indispensable pour que les codes d'entreprise aient un effet quelconque. Selon les pratiques courantes, les États-nations et les organisations étatiques internationales ont généré les ressources de pouvoir nécessaires, mais seulement jusqu'à un certain point. Le pouvoir de pression des mouvements protestataires, des organisations non gouvernementales, des syndicats, des organisations non lucratives et de l'opinion publique s'est révélé crucial. Les sanctions économiques font souvent pencher la balance, la sensibilité des consommateurs, du comportement d'achat desquels les entreprises dépendent, et celle de certains groupes d'investisseurs qui exercent une pression économique sur les entreprises commerciales et décisives. Il reste à voir si les États vont jouer un rôle de premier plan en exerçant de fortes pressions externes sur les entreprises après la crise financière. Dans ce contexte, les dernières nouvelles tendent à nourrir un certain scepticisme. Derrière la métaphore des codes volontaires réside donc tout sauf de la volonté. Les entreprises transnationales ne promulguent leur code ni sur la base de leur compréhension d'un bien commun, ni en raison d'une motivation d'éthique d'entreprise. Elles se soumettent simplement volontairement lorsque des pressions d'apprentissage massives sont exercées à leur encontre de l'extérieur. Le processus d'apprentissage n'intervient pas au sein du système juridique, de code à code, en transférant la validité des règles, mais par un long et sinueux détour à travers d'autres systèmes sociaux et d'autres moyens de communication. Il n'est pas suffisant de décrire ce phénomène comme si les sanctions juridiques étaient simplement remplacées par des sanctions sociales. Cela masquerait les effets déterminants de ce circuit de pression d'apprentissage. Dans le processus décrit précédemment des traductions ultra-cycliques, les frontières des systèmes sont en effet dépassées. Un cycle de perturbations apparaît entre les actes juridiques, les pressions de pouvoir politique et social, les opérations cognitives des communautés épistémiques, la persuasion normative et les sanctions économiques qui reviennent ensuite aux actes juridiques dans l'autre côté. Le contenu originel des recommandations publiques est significativement modifié quand ces dernières subissent un processus compliqué de traduction dans des différents univers de sens. Lorsque la soft law des codes publics est traduite dans le langage du savoir des experts, cela crée des effets particuliers qui développent des modèles et organisent des contrôles. Différentes issues sont possibles lorsque la soft law est traduite dans le pouvoir interorganisationnel des négociations politiques entre les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les entreprises transnationales et au-delà. Différentes issues sont encore possibles lorsque est reconstruite par les mécanismes de réputation du public ou des irritations financières et des sanctions. D'autres changements interviennent encore lorsque la soft law est retraduite dans le langage juridique de la hard law, des codes internes à l'entreprise. Ces connexions plutôt indirectes entre les codes soulignent que l'autoconstitutionnalisation des entreprises ne provient ni des mécanismes intrinsèques de volonté ni de mécanisme de sanction par le droit étatique, mais d'un processus de traduction circulaire dans lequel interviennent différentes pressions d'apprentissage. Merci pour votre attention.